Pour la dernière semaine de la Fabrique de l'Histoire de cette saison, nous nous arrêtons sur les 80 ans du Front Populaire. Après le 39e épisode de notre feuilleton sur la guerre froide concocté par Anaïs Quin et consacré au déclenchement de la guerre de Corée en 1950, nous recevrons en première partie de cette émission le co-organisateur du colloque international, le Parti communiste français dans une perspective transnationale qui s'est tenue il y a un peu moins d'un mois à Dijon. Il s'appelle Romain Ducoulombier, il est enseignant, historien, spécialiste du communisme et auteur d'un que sais-je, histoire du communisme. Puis en deuxième partie, avec Séverine Attard qui a préparé cette semaine avec nous, nous interrogerons Louis-Pascal Jacquemont, il est agrégé d'histoire, spécialiste d'histoire des femmes et du genre, auteur d'une biographie d'Irène Joliot-Curie et tout récemment, chez Belin, de L'Espoir brisé, 1936, les femmes et le Front populaire. Mais tout de suite, 39e épisode du feuilleton La fabrique de la guerre froide par Anaïs Quin et Françoise Camard.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believed in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide.
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Daejeon, les troupes américaines tentent désespérément de stopper l'élan des Nord-Coréens. Mais en dépit de leur ténacité, les Américains n'ont pu, dans la plupart des secteurs de combat, venir à bout d'un adversaire qui a jeté dans la lutte ses meilleures troupes, parfaitement aguerries, et munis, ainsi que les officiers de contrôle des Nations Unies ont pu le constater, d'un matériel ultramoderne en provenance du RSS.
Le 25 juin 1950, les forces nord-coréennes envahissent la Corée du Sud sous tutelle américaine depuis 1945. La guerre de Corée dure 3 ans et marque l'achèvement de la militarisation de la guerre froide. Pierre Journoux.
Les États-Unis vont très vite décider d'internationaliser le conflit et de passer par l'ONU. Ce qui était assez habile, évidemment, parce qu'ils vont, grâce à la politique, sans doute une erreur tactique importante de l'URSS, la politique de la chaise vide au Conseil de sécurité, ils vont réussir à faire adopter 2 résolutions dans les tout premiers jours de l'offensive nord-coréenne qui sont votées. La première qui appelait les troupes coréennes à se retirer immédiatement, elle ne sera pas appliquée évidemment. Donc ils vont faire voter une 2e résolution quelques jours après le déclenchement de cette offensive. Donc tout s'enchaîne assez vite pour internationaliser donc le conflit et confier à une opération onusienne, multinationale, effectivement, là, le devoir de reconquérir la péninsule, la partie en tout cas du sud de la péninsule coréenne qui a été envahie par les troupes nord-coréennes. Et donc, à partir de la fin juin 1950, les États-Unis bénéficient officiellement du mandat de l'ONU pour prendre le commandement de cette opération onusienne. On a qualifié d'ailleurs la guerre de Corée de première guerre onusienne, première guerre de l'ONU, parce que c'est la première fois qu'effectivement l'ONU s'implique à ce point. Et donc sous l'égide des États-Unis qui vont constituer bien sûr le gros des troupes dans cette expédition internationale, se constituent progressivement des bataillons qui viennent pour la plupart de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne c'est 14 000 hommes à peu près qui vont être fournis et qui vont renforcer le corps expéditionnaire américain. C'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France aussi avec un peu plus d'un millier de soldats. C'est le Canada, la Turquie, voilà, et quelques autres, une 15aine de nations, 16 au total, je crois. Et bien sûr, les États-Unis voient l'avantage de fédérer le monde dit libre autour d'eux dans le cadre d'une nouvelle phase de la guerre froide.
C'est le premier conflit armé, c'est la première guerre de la guerre froide, selon vous ?
C'est difficile de trancher cette question. Je crois que la guerre d'Indochine, d'une certaine manière, est déjà insérée dans le tissu de cette guerre dite froide, qui porte si mal son nom en Asie. L'Asie n'a connu que des guerres chaudes, en l'occurrence. Mais je crois que très tôt, le Parti communiste vietnamien, effectivement, a voulu convaincre ses partenaires, ses alliés communistes puissants, desquels il attendait un soutien, etc., de s'engager à ses côtés contre le corps expéditionnaire que le général de Gaulle avait envoyé en 1945, et qui continue à se battre au moment même où la guerre de Corée est officiellement déclenchée en juin 1950. Donc ce n'est pas la première guerre chaude de la guerre froide, je crois que c'est plutôt la continuité aussi, là encore, d'un rapport de force qui s'est cristallisé en Asie entre communistes, anticommunistes. Et dans ce rapport-là, un certain nombre de pays, je pense à l'Inde en particulier, ou au Cambodge de Sihanouk, et quelques autres encore, ces pays-là cherchent effectivement à rompre, à dépasser, à transcender ce clivage qu'ils jugent stérile, voire très dangereux. Effectivement, la perspective d'une troisième guerre mondiale est encore dans les esprits.
On peut lire parfois que ce déclenchement de la guerre de Corée correspondrait peut-être à un achèvement de la militarisation internationale de cette guerre froide. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Journeau ?
La guerre de Corée n'a pas été une sinécure, loin de là, pour les États-Unis. C'est la première intervention majeure des troupes américaines donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en dehors des États-Unis. Et la guerre de Corée va les conduire à un certain nombre d'échecs, de désillusions. C'est à partir du moment où les interventions, où les volontaires chinois interviennent massivement dans le conflit, 1 700 000 volontaires, ce n'est pas rien, et contribuent effectivement à modifier totalement le rapport des forces sur la péninsule coréenne. L'armée américaine va être acculée pour la première fois de son histoire à une retraite. Et elle s'effectue sous l'égide de MacArthur, qui est toujours commandant en chef. Et les Américains vont tirer un certain nombre de leçons de cet échec, en particulier du point de vue des armements, de l'aviation, de l'arme nucléaire. On commence effectivement à penser à la miniaturisation de l'arme nucléaire, les armes nucléaires tactiques, etc. On commence aussi à modifier les conditions d'intervention de l'aviation de bombardement, les B-29, que d'ailleurs votre archive dévoile. Ils opéraient de jour, on va leur interdire d'opérer de jour compte tenu des pertes que leur infligeaient notamment les Chinois. Donc il y a tout un nombre de leçons militaires qui sont tirées de ce conflit et qui contribuent à militariser la guerre froide des deux côtés.
Et comme d'habitude, ce 39e épisode du feuilleton La Fabrique de la Guerre Froide peut être téléchargé séparément des autres émissions de La Fabrique de l'Histoire pour pouvoir garder avec vous l'ensemble de cette série sur la guerre froide. Bonjour Romain Ducolombier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour parler d'un colloque dont on voulait parler depuis longtemps. Il fallait trouver un peu de place dans le programme foisonnant de la Fabrique de l'Histoire. Et en l'occurrence, ce colloque s'est tenu il y a presque un mois maintenant. C'était donc à Dijon. Il s'appelait « Un parti global, le Parti communiste français dans une perspective transnationale ». Et ce qui est très intéressant dans ce colloque, c'est que c'est l'achèvement d'un programme de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche. Un programme de 3 ans que vous avez avec d'autres lancé donc et développé sur ce parti communiste. Quel était le but de ce programme de recherche au tout départ et comment a-t-il évolué pendant ces quelques années?
Alors l'idée du colloque, c'était de ponctuer la mise en ligne de notre portail numérique d'accès aux archives des fonds français du Comintern par une rencontre scientifique internationale de chercheurs qui se consacrent à l'histoire du Parti communiste français. L'un des premiers motifs de satisfaction avec ce colloque, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes chercheurs et qu'on a eu le sentiment qu'il y avait un véritable dynamisme autour de cette recherche sur le Parti communiste français, ce qui me semble être un point positif. L'idée de notre portail numérique, c'est de permettre aux chercheurs, mais aussi au public, d'avoir accès aux fonds français du Comintern, c'est-à-dire en fait un ensemble considérable d'archives qui se trouvent en principe à Moscou, mais qui ont été rapatriés par différentes manières, donc en particulier à l'Université de Bourgogne, et de permettre donc un accès gratuit, transparent, à des inventaires, mais aussi à des documents numérisés de ces fonds. Alors ces fonds sont considérables, hein. C'est d'abord et avant tout le fonds français du Comintern, c'est-à-dire le fonds 517-1, c'est la cote soviétique, c'est-à-dire les documents qui ont été fournis par le PCF, envoyés par le PCF à Moscou, mais il y a aussi d'autres fonds nombreux sur l'International syndical rouge, l'International communiste des jeunes, l'école léniniste internationale où les cadres du Parti communiste allaient se former, qui sont en partie ou parfois totalement accessibles sur notre site. Ça représente à peu près 500 000 documents qui sont mis en ligne actuellement.
Alors, ces 500 000 documents racontent l'histoire du rapport entre le Parti communiste français, les autres partis communistes, mais surtout le Parti communiste d'Union soviétique. Ce rapport, donc, qui était connu, évidemment, depuis très longtemps, mais qui a peut-être été profondément renouvelé par la découverte de ces documents qui datent, eux, de la fin de la chute du mur de Berlin et de leur rapatriement depuis Moscou dans les années 90, Romain Ducoulombier.
Ah oui, l'idée du colloque, c'était d'essayer de repenser la place du Parti communiste dans ce que j'appellerais le mouvement communiste international, c'est-à-dire d'essayer de comprendre, dans une perspective assez classique, hein, malgré tout, centre-périphérie, c'est-à-dire d'essayer de repenser les rapports entre le centre soviétique et la périphérie, en l'occurrence ce Parti communiste français.
J'allais croire que c'était le centre français et la périphérie soviétique.
Non, mais en même temps, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que grâce à ce colloque, l'un des résultats de ce colloque, me semble-t-il, c'est qu'on voit bien que le Parti communiste français n'a pas été, je dirais, un monolithe sur lequel depuis en haut sont tombées simplement les directives de Moscou, même si évidemment c'est une dimension, la dimension verticale du fonctionnement de l'international communiste est connue. Mais en même temps, on voit bien comment est-ce que le Parti communiste a été, je dirais, une succursale active, en fait, au sein de l'international communiste et du mouvement communiste international.
Que ça l'active, vous le reprenez à un...
Je reprends un des intervenants, effectivement, du colloque et qui m'a semblé, dans cette formule, rassembler, je veux dire, une manière de repenser un petit peu la place du Parti communiste. Je veux dire que le Parti communiste français est à la fois, disons, dans une position de réception contrainte vis-à-vis de Moscou, mais aussi de diffusion contraignante vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, d'autres partis communistes, par exemple, je pense au Parti communiste algérien, d'autres groupes sociaux, d'autres hommes politiques, d'autres, etc., etc. Donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de repenser la place du Parti communiste français dans ce mouvement communiste international à un moment où se réécrit l'histoire globale du phénomène communiste et où justement, me semble-t-il, hein, malheureusement, la place du Parti communiste français dans cette écriture, de cette réécriture globale de l'histoire du phénomène communiste se réduit et mal comprise. Parce que les Français, d'une certaine manière, les historiens français, jusqu'à un certain point, ont raté pour l'instant, me semble-t-il, en tout cas dans le cadre des études sur le communisme français, le tournant transnational qui est aujourd'hui très très fort dans le reste du monde, en particulier dans le monde anglo-saxon.
Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on se dit, voilà un parti qui se veut dès le départ internationaliste, donc a priori, il est dans cette perspective transnationale dès l'origine, et pourtant, il a été renationalisé d'une certaine façon. Et il faut faire un colloque de ce type ou une ANR de ce type pour pouvoir dire, eh bien, remettons-le dans une perspective transnationale. Alors qu'a priori, s'il y a bien un parti qui était dans une perspective transnationale dès l'origine, c'est le Parti communiste français, Romain Ducoulombier.
Oui, c'est vrai que, disons même, l'historiographie du transnational, c'est pas une invention pure des années 2000. Hein. Je veux dire, effectivement, l'histoire du mouvement ouvrier, elle s'est intéressée à l'histoire du mouvement ouvrier international depuis longtemps. Mais c'est vrai que le problème de cette histoire, c'est qu'elle a été longtemps dominée, depuis, en particulier depuis les années 90, par le paradigme que j'appellerais totalitaire. Et ce paradigme totalitaire permet juste de penser la diffusion du totalitarisme depuis le centre soviétique jusqu'à l'extérieur. Et c'est un problème parce que, du coup, à un moment, si vous voulez, ça détourne l'attention du Parti communiste français pour se concentrer uniquement sur le centre soviétique.
Ça veut dire que, selon vous, cet adjectif totalitaire, s'il est peut-être juste, n'est pas suffisant pour pouvoir résumer cette question-là ?
Ah non, je pense pas du tout, au contraire. Et je pense que le colloque le montre d'une certaine manière. Je rentre pas dans les débats importants autour de l'utilisation du terme de totalitarisme, mais du point de vue, disons, du recours à cet adjectif ou à ce concept, il me semble que ça a détourné jusqu'à un certain point l'attention de l'histoire politique du Parti communiste français. Voilà. Et donc, il faut repartir. L'idée, c'était de retrouver peut-être les moyens scientifiques, méthodologiques, mais aussi archivistiques pour retravailler l'histoire politique du PCF.
Alors, vous l'avez fait, par exemple, dans votre communication, où vous travaillez sur la figure de Barbu, Confucius, donc grand héros du communisme français, grand dénonciateur de la Première Guerre mondiale, dans son rapport à Staline et au Parti communiste français. Et vous nous apprenez, moi je ne le sais pas, mais peut-être les biographes de Barbus le savaient-ils, qu'il y avait donc un rapport particulier avec de Barbus avec Staline. Non seulement il était l'auteur d'une biographie de Staline, mais aussi qu'il y avait une sorte d'aller-retour entre la personnalité de Staline et la personnalité de Barbus, dont vous avez trouvé les traces justement dans ces archives du Comintern.
Alors, c'est vrai que Barbus, de ce point de vue-là, est une figure très intéressante parce que c'est l'un des seuls communistes français, hein, il appartient au Parti communiste français de 1923, à avoir rencontré personnellement Staline quatre fois, entre 1927 et 1935. Alors en 1927, c'est la rencontre entre, disons, un ancien combattant célèbre et influent, et puis le pacifiste, et le numéro un soviétique. Mais entre, à partir de 32, 33 et 34, hein, dans leurs trois rencontres suivantes, ce sont des rencontres que je pourrais appeler conspiratives, où il s'agit en fait de discuter de l'avenir, en particulier du mouvement pacifiste et anti-guerre Amsterdam-Pleyel. Et on découvre, grâce en particulier alors aux archives d'Henri Barbus, aux archives de Maurice Thorez, aux archives du secrétariat personnel de Staline, dans lesquelles j'ai travaillé également, et dans les archives de l'International communiste, l'ampleur du rôle d'Henri Barbus dans, je dis, ce qu'on pourrait appeler une sorte de pré-front populaire, c'est-à-dire en fait dans l'ouverture du front culturel du Parti communiste français. Dans le rôle en fait en gros de Barbus dans l'idée qu'il faut une alliance des intellectuels contre le fascisme.
À partir de 1932.
À partir de 1932, dans le cadre du mouvement Amsterdam.
Avant le comité des intellectuels antifascistes.
Au moment, voilà, c'est ça. Donc avant et puis ensuite contre ou en concurrence avec le CVIA, donc le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Donc effectivement, tout à fait. J'avoue que c'était une surprise sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Et là, vous comprenez du coup l'intérêt aussi de notre démarche, c'est-à-dire de pouvoir permettre de croiser les fonds. Parce que l'une des difficultés de ces fonds français, c'est qu'ils sont, on peut pas partir simplement du fameux 517-1 dont je parlais à l'instant. Il faut aussi le croiser avec d'autres fonds. Là, je parlais du secrétariat général de Staline, mais il y en a d'autres, bien entendu, l'International syndicale rouge, etc. Donc vraiment, c'est un travail qui suppose d'aller, de multiplier les recherches dans chacun de ces fonds, dossiers biographiques, Fonds français du Comintern, École léniniste internationale, etc.
Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas, et c'est ce que disent tous les historiens spécialistes de cette période et de ces fonds, il ne faut pas prendre ces fonds comme étant une sorte de révélation, comme on trouverait un trésor au fond du jardin, et se dire à partir de là, on va relire entièrement toute l'histoire du communisme parce qu'on a trouvé le fond qui permet de l'expliquer, et c'est pour ça qu'il faut le croiser avec tous les autres fonds déjà existants pour ne pas se laisser, entre guillemets, emporter par le plaisir de la découverte d'archives nouvelles, Romain Ducoulombier.
Alors, c'est vrai que dans les années 90, il y a eu un moment où la révélation de cet énorme continent d'archives a enflammé les imaginations. C'était certain, tout à coup, on se retrouvait face à un énorme continent d'archives qui reste, en tout cas, me semble-t-il, pour les Français, largement terra incognita. Ça, c'est une des volontés.
Vous notez le manque de curiosité de nos...
Non, pas du tout, c'est pas ça. Mais il y a aussi des difficultés techniques, des difficultés pratiques, aussi à l'accès de ces fonds. Et l'un des buts de notre portail, c'est de faciliter l'accès et le travail des chercheurs dans cette direction. Mais encore une fois, les années 2000 aujourd'hui, on a la possibilité de faire un bilan justement de ce qui est disponible et de ce qui ne l'est pas. Et donc l'une des idées, me semble-t-il, fondatrice de notre colloque, c'était de dire que cette révolution a eu lieu, mais cette révolution est inachevée. Et il faut la reprendre, il faut la continuer. Et cesser de gloser éternellement sur la révolution des archives de 1990 qui a confirmé, etc., etc. Il faut se remettre au travail, il faut aller chercher les archives là-bas, à Moscou. Notre portail
offre... C'est
possible,
c'est facile ?
C'est beaucoup plus facile qu'on ne croit. Même s'il y a toujours un effet d'intimidation lié à la difficulté linguistique, lié à l'éloignement, au coût, etc., c'est plus facile qu'on ne croit, mais c'est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut plus travailler sur le Parti communiste français sans faire un détour, parfois prolongé, à Moscou. Bon, ça, c'est un point absolument clair et net, et c'est une des conséquences de cette révolution archivistique.
Vous avez mentionné le fait que votre colloque organisé donc il y a maintenant à la toute fin mai, 25-26 mai, à Dijon, avait donné la parole à de très nombreux jeunes chercheurs. Qu'est-ce que il vous a appris, ce colloque, vous qui l'avez co-organisé, Romain Ducoulombier, et quels sont les points qui vous semblaient être révolutionnés, transformés transformé, changé par l'intermédiaire justement des travaux de ces jeunes chercheurs et chercheuses.
Je crois que le principal bilan de ce colloque, de ce point de vue-là, c'est de faire apparaître le mouvement communiste international comme un nouvel espace de circulation assez paradoxal.
C'est-à-dire que
d'un côté, on a l'URSS qui est une société fermée, ou d'une certaine manière qui s'est construite comme une société fermée.
À partir de la fin des années 20.
Dès la fin des années 20, hein, enfin dès les années 20 en réalité. Il y a des débats sur cette question, mais ensuite, donc c'est dès les années 20 où les soviétiques mettent en place un système de contrôle de la mobilité, en gros des citoyens soviétiques, et de la mobilité des étrangers à l'intérieur de l'Union soviétique avec aujourd'hui un appareil de contrôle qu'on connaît beaucoup mieux grâce justement à ces archives. Et donc dans cet espace donc centré autour d'une société fermée, eh bien on a malgré tout des circulations d'idées, des circulations de pratiques, des circulations d'hommes et de femmes, hein, bien entendu, émissaires de l'international communiste, pratiques bureaucratiques de contrôle, de promotion et d'encadrement des cadres, etc. Et donc dans cet énorme espace centré sur une société fermée, on a une véritable circulation des hommes, des idées, des objets en quelque sorte.
Donnez-nous des exemples que vous avez tirés de ce colloque qui vous ont frappé, Romain.
Alors bon, j'ai été frappé par essentiellement deux exemples. Le premier, c'est un exemple qui a été travaillé par une historienne qui s'appelle Anna Chapovalova et qui nous a présenté en fait l'un des premiers procès.
Procès du parti industriel.
Voilà, le procès du parti industriel à la fin de l'année 1930 et qui en fait est construit totalement comme à la fois un événement soviétique, mais aussi à destination extérieure. Et donc les services soviétiques et l'entourage de Staline décident de le construire comme une campagne internationale qui s'imbrique avec des difficultés diplomatiques avec la France et qui active un appareil de mise de propagande qui inclut en fait le Parti communiste français. Et donc le Parti communiste français est totalement pris dans cette campagne internationale. Ça donnera lieu, bon, les lecteurs français le savent sans doute, à un poème d'Aragon, Front Rouge, qui posera d'ailleurs pas mal de problèmes à son auteur, et qui aboutira à la rupture avec les surréalistes. Mais donc c'est un premier exemple en fait où on voit justement cette histoire du mouvement communiste international qui doit être comprise dans un sens transnational. L'autre exemple, c'est l'objet dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la biographie de Staline en 1935, rédigé par Barbus. C'est une biographie qui est pensée par et voulue par le secrétariat personnel de Staline. C'est Staline qui choisit Barbus comme rédacteur de la biographie, et c'est le secrétariat personnel de Staline qui fournit à Barbus la documentation nécessaire à la rédaction de cette biographie. L'intérêt de cet objet biographie de Staline, c'est qu'elle n'est pas simplement destinée au public occidental, et en particulier au public communiste occidental, c'est qu'elle va aussi avoir une influence en Union soviétique, puisqu'elle va être ensuite traduite et diffusée en Union soviétique. Donc ce qui m'intéressait ici, c'était la réversibilité des influences. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'histoire du mouvement communiste international de haut en bas, du soviétique vers le reste, vers le Parti communiste français et d'autres. Mais il faut aussi voir qu'il y a une influence française dans le sens inverse, en quelque sorte. Hein. Et donc, bon, là aussi, j'ai pu travailler sur le travail de lobbying dans les services de l'international communiste pour essayer d'obtenir un tournant, justement le fameux tournant du Front populaire, entre 1932 et 1934.
Alors donc il y a toutes ces dimensions, il y a aussi un travail dont on se dit qu'il est accompli en dehors de France par d'autres. Vous mentionnez souvent, Romain du Colombier, le travail très fort accompli par les chercheurs en langue anglaise, britannique ou américain, autour de cette question de ce communisme vu dans une perspective transnationale. Il y a des travaux qui mériteraient aujourd'hui d'être connus, traduits aujourd'hui ici, qu'on ne connaît pas et qui pourtant sont essentiels pour pouvoir donner cette nouvelle dimension au Parti communiste français.
Oui, absolument. Je pense que d'une part, en fait, la problématique transnationale, c'est vraiment une problématique qui a pris racine et qui s'est développée aux États-Unis. Il me semble qu'un historien aujourd'hui comme Michael David Fox, hein, qui travaille sur en fait les relations, l'importance justement, la réversibilité des influences des occidentaux sur l'Union soviétique et sur les nouvelles sources, sur l'accueil des soviétiques, est un historien qui devrait être plus traduit même et mieux connu en France. On avait tenté de l'inviter l'actualité, malheureusement. Il y avait des gros colloques sur le stalinisme au même moment. Il n'a pas pu nous joindre. Mais il y avait d'autres historiens qui étaient parmi nous. Et il me semble qu'il y aurait aussi un intérêt majeur à publier des histoires globales du mouvement communiste international qui ont été publiées depuis plusieurs années donc en anglais et qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles en français. C'est dommage.
Alors, donc, le résultat de ce colloque, c'est donc d'avoir mis un point virgule, peut-être pas un point final, aux travaux de cet ANR que vous avez commencé il y a quelques années à Dijon, autour de ces fonds. Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, 500 000 documents qui sont désormais numérisés, accessibles sur le site, dont on mettra évidemment le lien sur le site de la Fabrique de l'Histoire. Mais il y a une suite à cette histoire-là, c'est-à-dire que ce type de colloque qui se veut un colloque international rassemblant des jeunes chercheurs autour de ces questions n'est évidemment pas un point final.
Alors oui, on espère qu'il y aura une suite. Bon, d'abord, on a conçu l'ANR, enfin le portail Paprika, à la fois comme un centre de ressources virtuelles. Donc, il y a un blog, il y a le portail lui-même, il y a ensuite toutes les structures nécessaires pour permettre à d'autres de s'adjoindre à notre projet. On espère aussi prolonger le travail au-delà de 1947, puisque c'était la date butoir de notre ANR. Et puis, évidemment, on espère aussi constituer peut-être une revue, peut-être il y aura publication du colloque, et donc multiplier.
Il y aura
publication, multiplier les discussions justement autour de ce moment qu'on espérera charnière, on va dire, dans l'historiographie du communisme français.
Merci beaucoup, Romain Ducoulombier. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur d'un Que sais-je paru il y a 2 ans sur le Parti communiste, qui s'appelle sur l'histoire du communisme, qui s'appelle Histoire du communisme chez Que sais-je, donc au Presse universitaire de France. Merci encore d'être venu.
Merci.
Extrait de la marche des blouses bleues par la coopérative ouvrière de TSF, c'était évidemment pendant le Front populaire en 1936. Bonjour Séverine Attard.
Bonjour.
Et vous nous avez conseillé pour cette ouverture de notre semaine, notre série consacrée aux 80 ans du Front populaire, d'inviter Louis-Pascal Jacquemont. Bonjour Louis-Pascal Jacquemont.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Pour son livre « L'espoir brisé 1936, les femmes et le Front populaire », vous nous le présenter ce livre, Séverine Attard, que raconte-t-il justement de cette histoire particulière que les femmes ont pu avoir avec le Front populaire, avant le Front populaire et pendant le Front populaire?
Disons que Louis-Pascal Jacquemont, vous procédez à une sorte de synthèse, en fait, de la présence, du rôle, de l'action des femmes durant le Front populaire, et finalement des espoirs aussi déçus par rapport à, évidemment, cette action. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, du coup, faites un recensement des travaux qui ont été faits, et on se rend compte d'ailleurs tous les travaux qui restent à faire, toutes ces problématiques, parce que finalement vous ouvrez des pistes, vous ouvrez énormément de pistes en ce qui concerne donc les femmes travailleuses, la question de l'égalité des salaires, la question du vote des femmes évidemment, la question des représentations des femmes, enfin voilà, les immigrés, les femmes immigrées aussi, leur présence.
Oui, les femmes du silence.
Les femmes du silence, les femmes dans le monde agricole, et puis voilà, vous montrez comment, combien il est difficile, en fait, d'accorder aux femmes, à ce moment-là, pourtant, si heureux, si ouvert, plein d'espoir, à la fois des droits politiques, des droits au niveau du travail, des droits au niveau aussi intellectuel, hein, bien sûr. Et c'est une première. On est dans les années 30 et ça ne sera pas fini. Hein, faut bien le préciser. C'est-à-dire que on est évidemment pas surpris, mais on se dit ben après tout ça, elles n'ont pas obtenu grand-chose. Après la guerre, elles vont pas obtenir encore grand-chose et le combat va continuer. Il va falloir qu'il continue encore un certain temps et c'est pas fini.
Et il n'est pas terminé.
Il n'est pas terminé.
Louis-Pascal Jacquemont, ce livre, vous l'avez conçu depuis longtemps comme cette synthèse que vient de décrire justement Séverine Liattard, de ses travaux récents aussi, de tous les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces questions-là. Comment vous en est venue l'idée? C'est après votre biographie d'Irène Joliot-Curie?
Oui, tout à fait. C'est en travaillant sur le personnage d'Irène Joliot-Curie, dont on sait qu'elle a été l'une des trois femmes sous-secrétaire d'État nommée par Léon Blum, même si elle a abandonné son poste quelques mois après, à la suite de désaccords assez considérables, comme le montre sa lettre, le brouillon de sa lettre de démission, qui est particulièrement éloquent de ce point de vue-là. Eh bien, j'ai cherché vainement un ouvrage qui me parlerait des femmes de la période des années 30, avant et après le Front populaire, et je n'en ai pas trouvé. Donc à partir de ce moment-là,
quand on n'en trouve pas, on se dit on va le faire soi-même.
On se dit on va le faire soi-même. Et c'est vrai que je me suis heurté au fait que je trouvais des thèses. J'en ai trouvé une douzaine qui abordaient des sujets pas directement sur le Front populaire, pas directement sur le sujet femme à tous les coups, mais en tout cas qui abordaient cette thématique, mais qui n'avaient jamais fait l'objet, outre de quelques articles, d'une mise en perspective et d'une mise en synthèse. Et donc ça m'intéressait de mener, si je puis dire, ce travail, ce projet à terme, au moins pour ouvrir les perspectives, et je suis heureux que Séverine Liattard les dessine un petit peu aussi, de manière aussi remarquable.
Oui, tout de même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un bouillonnement formidable. Ce que vous nous décrivez, c'est un bouillonnement formidable avant le Front populaire. C'est des femmes qui donc sont entrées dans les entreprises en particulier, mais pas simplement pendant la Première Guerre mondiale, qui, comme on l'a dit, ne sont pas toutes revenues, comme on l'a dit souvent, ne sont pas toutes revenues au foyer, qui sont nombreuses dans les usines, par exemple. Moi, je découvre en vous lisant quoi, il y a un tiers de femmes chez, oui, Citroën à ce moment-là, par exemple.
Et dans non, chez lieux. Citroën, c'est lorsqu'André Citroën crée ses nouveaux ateliers, il va faire appel, il va concevoir l'entreprise de manière à faire appel à la main-d'œuvre la moins chère possible.
Ouais.
Donc,
ça n'est pas
dans certains ateliers, c'est 85%.
Oui.
Des femmes, notamment l'atelier de Sellery, où on verra Rose Zener, par exemple, mener une grève. Mais et au global, on est à plus de 30% de femmes dans les usines Citroën.
Un désordre aussi de courage, pourrait-on dire, de toutes ces femmes qui veulent reprendre l'exemple des suffragettes et qui veulent lancer la question du droit de vote dans toutes les années 20 et le début des années 30, comme vous le racontez aussi, Louis-Pascal Jacquemont. Donc, énormément de militantes actives, peut-être pas très connues. On connaît Louise Weiss, on en connaît d'autres. Cécile Brunschvicg, puisqu'elle a été ministre du Front populaire. Mais il y en a d'autres qu'on connaît peu et que vous nous décrivez comme nombreuses, actives et espérant justement quelque chose de ce Front populaire.
Si vous permettez, je crois qu'il y a trois branches, trois courants. Il y a celles qui sont dans des mouvements féministes, qui, tout de suite après la Première Guerre mondiale, n'ont pas obtenu, par la faute des sénateurs radicaux en particulier, et notamment à l'issue des élections de 1919, le droit de vote auquel elles pouvaient prétendre, puisqu'il a failli être obtenu le 5 juillet 1914, à la suite d'une grande manifestation. Et c'est bien la guerre qui a arrêté le mouvement. Et comme elles ont accompli le devoir patriotique qu'on leur demandait de faire, elles trouvaient légitime d'être à leur tour récompensées par le droit de vote, comme la plupart des démocraties nouvelles qui sont créées au lendemain des traités de paix. La France prend un retard extraordinaire de ce point de vue-là. Eh bien, il y a celles qui appartiennent à ces courants un peu radicaux de féministes. Il y a un deuxième groupe de femmes qui entrent dans les partis politiques. Parce que progressivement, les partis politiques exclusivement masculins acceptent que des femmes entrent progressivement. C'est le cas du Parti radical, par exemple. Mais tout en balisant un petit peu leur parcours.
En faisant des commissions de femmes, et leur rôle, évidemment, est de recruter.
En leur rôle, et en choisissant de préférence une femme comme Louise Siomeneau, qui est capable de verrouiller le système et d'empêcher qu'elle s'épanche un peu trop sur leur demande de droit. Et qu'elle suive un petit peu les figures symboliques du parti. Et puis, le troisième mouvement, c'est dans les entreprises. Parce que dans les entreprises, le fait qu'il y ait quasiment 37% des femmes qui soient au travail, alors que tout le monde les pense au foyer,
eh oui.
C'est va amener des femmes à vivre et à devoir se rendre compte qu'il y a le droit de cuissage, qu'il y a l'exercice du bedeau qui domine les rapports hommes-femmes dans les ateliers. Il y a toute une série. Et ça suscite toute une série de mouvements et beaucoup de petites grèves qui se sont multipliées entre, je ne les ai pas racontées ici, mais entre 1925 par exemple et 1932 sont souvent des grèves déclenchées à la suite d'incidents de cette nature, c'est-à-dire de genre.
Séverine,
mais je trouve à chaque fois ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement comment il y a des femmes qui sont résolument féministes, même justement dans le monde ouvrier, des travailleuses, les premières syndiquées, les premières femmes qui rentrent dans les partis politiques, qui ne sont surtout pas en lien avec les mouvements plus féministes ou suffragistes qui réclament le droit de vote et le droit civique des femmes dès le début du XXe siècle. Et qui sont surtout pas mis en lien à cause finalement des partis politiques, des centrales, enfin des centrales politiques, parce que on le voit bien, vous citez certaines femmes qui revendiquent le droit au travail, le droit à l'indépendance, à l'autonomie, qui revendiquent le fait que le travail à domicile n'est pas un travail avec lequel on a un salaire d'appoint, mais c'est un travail nécessaire aux femmes. Et puis on perçoit bien dans votre livre comment les syndicats, la CGT en premier lieu, dit à ces femmes, ou le Parti Socialiste dit à ces femmes attention, n'allez pas fréquenter les suffragistes, cela ne vous concerne pas. Hein.
Alors, Louis-Pascal Jacquemont. Pèse sur cette situation quelque chose qui a créé une certaine ambiguïté, mais je crois qu'il est fondamental, c'est que le mouvement ouvrier...
Lutte de classe d'abord.
L'idée fondamentale, c'est que la lutte de classe résoudra la lutte des sexes. Alors que les féministes les plus radicales, comme le montre Christine Barr dans son ouvrage sur les filles de Marianne, montrent bien que celles qui sont les plus intégristes à l'époque sont dans l'idée que c'est indépendant et que la lutte des sexes vaut d'être poursuivie indépendamment de la lutte des classes, voire même en corrélation avec la lutte des classes. Mais en tout cas, ne pas confondre l'un avec l'autre. Et là, effectivement, la SFIO a pris a fait un choix politique énorme en disant que c'était d'abord ce phénomène-là. Et à partir de 1927, le Parti communiste va la rejoindre sur ce même créneau. Et donc, c'est le fameux tournant dont on parlait tout à l'heure au sujet de ce qui va constituer les fronts populaires dans plusieurs pays, notamment de l'Occident, soit en Espagne ou au Portugal, par exemple. Mais en même temps, c'est ce qui va amener à l'idée que la famille est un élément clé et que l'avenir, ça n'est pas l'émancipation de la femme, mais c'est en quelque sorte la reconstitution d'une cellule familiale et maternelle fondamentale, maternaliste, avec l'idée qu'il faut rebâtir une puissance et que ce rebâtir une puissance, c'est faire des enfants. Donc les femmes, elles ont à la fois le devoir, j'allais dire politique, d'être au foyer et le devoir démographique de faire des enfants.
Et on comprend pourquoi dans les accords de Matignon, on n'a pas trop insisté sur travail égal, salaire égal. Là, vous faites tout un chapitre sur cette problématique. Évidemment, c'est pas un enjeu extrêmement important justement pour les salariés.
Il y a deux raisons. La première, c'est que on s'aperçoit que le grand patronat qui est présent à ces accords Matignon fait une découverte. C'est l'inanité des salaires de ces femmes, puisque vous savez que aux accords Matignon, il n'y a que des hommes qui négocient. Sauf que il y a une délégation qui, dans l'antichambre, a une femme. C'est Marthe Desrumaux, qui est arrivée avec des feuilles de salaire des femmes du textile du Nord. Et à un moment donné, à une interruption, elle confie à Léon Jouhaud les différentes feuilles de paye. Et effectivement, Léon Jouhaud étale devant des grands patrons médusés les feuilles de paye. Ce qui vaut de la part de Duchemin, par exemple, la réflexion en disant « Ah bon ? Mais on leur donne si peu ?» Vous voyez,
On aurait pu être, au courant parce que un an plus tôt, il y avait la grande grève des Mininettes, qui dans Paris avait quand même un peu fait du bruit dans toutes les maisons de couture. Ces femmes qui avaient protesté justement contre les conditions de travail et en particulier contre le fait qu'elles étaient très mal payées dans des maisons qui étaient pourtant des maisons de haut luxe. Donc on avait déjà peut-être un petit écho de tout cela.
Oui, Germaine Le Hennaff, qui mène cette grève en particulier, essaye. Alors, c'est assez intéressant parce que si vous regardez la panoplie des journaux qui couvrent l'épisode de cette grève des Mininettes, il n'est quasiment jamais question des salaires. Et à chaque fois, dans les journaux, il est bien question que ces jeunes filles, c'est des jeunes filles qui, avant d'être mariées, exercent une activité dans la couture ou exercent une activité dans la couture de luxe, ou bien ce sont des femmes, mais c'est leur salaire d'appoint. Donc, à la limite, quelle que soit la hauteur de ce salaire, il est un salaire d'appoint. Mm-hmm. C'est l'idée que c'est l'homme qui ramène le salaire dans la famille. Donc, intellectuellement, il y a un impensé social, c'est que la constitution même de l'ordre des sexes est qu'il y a une hiérarchie. Les hommes travaillent et rapportent le salaire, et la femme, lorsqu'elle travaille, eh bien, c'est peut-être un peu pour s'émanciper, c'est peut-être, c'est avec l'autorisation de son mari, puisqu'il lui faut jusqu'en 1938, et ensuite, c'est uniquement un salaire d'appoint.
C'est brillant. Alors, c'est vrai que là, on parle de d'une certaine classe sociale, hein, qui sont les ouvriers. Alors, bon, moi, j'avais travaillé un peu plus sur le milieu intellectuel. Il y a quand même toute cette génération, de femmes nées au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, qui va entamer des études. Alors là, on n'est pas dans la perspective d'un salaire d'appoint. Ce sont les enseignantes, les avocates, les professions médecins, éventuellement.
Oui, majoritairement célibataires.
Alors, souvent.
Ou condamnés au célibat, d'une certaine manière.
Voilà, c'est le revers de la médaille. Mais que l'on voit. En tous les cas, voilà, il y a aussi toute cette génération de femmes qui essaient...
Absolument, la promotion sociale par les études, et notamment par...
Est en action, enfin voilà, est en marche, on va dire.
Avocat,
professeur, Jacqueline de Romilly qui passe l'agrégation à ce moment-là.
Toutes ces femmes-là représentent un courant important. Et ce qui va un petit peu changer avec 36, c'est qu'on va voir arriver progressivement des femmes mariées. Et notamment dans les syndicats, notamment dans les partis. Alors qu'auparavant, c'est plutôt une affaire de célibataires. Alors si vous regardez les trois ministres qui sont nommés, Irène Joliot-Curie, femme mariée, Cécile Braunschweig, femme mariée, mais toutes les deux appartenant quand même à une certaine catégorie sociale, on dira plutôt de la bourgeoisie, bourgeoisie intellectuelle, bourgeoisie parisienne. Et puis Suzanne Lacor, institutrice, célibataire, qui a fait ce qu'elle a pu quand elle était en Dordogne, qui a beaucoup écrit et qui, finalement, hésite à rentrer dans ce... hésite. Et l'une des raisons qu'elle donne, c'est « je ne suis pas mariée ». C'est assez ahurissant.
Ce qui est tout de même assez extraordinaire, c'est que on voit toutes les attentes, et vous les décrivez bien, de ces femmes avec l'arrivée du Front Populaire. On voit aussi les malentendus. Elles n'ont peut-être pas lu l'interview de Léon Blum en 1932, qui, dans un journal, dit que les femmes, il est pour le droit de vote des femmes, bien évidemment, mais que tout compte fait, c'est les femmes elles-mêmes qui n'y tiennent pas. Il n'y a pas 10 000 femmes, dit-il, en France, qui s'intéressent à la politique. Donc, d'une certaine façon, c'est une façon de renvoyer poliment les gens ailleurs que dans les bulles.
C'est l'argument de la lâcheté politique.
Oui, et voilà. Et donc, on voit bien cette déception. C'est ce que vous décrivez. Cette déception de ne pas obtenir le droit de vote, des droits civiques supplémentaires, mais aussi, comme le disait Séverine Yatar, des propos aussi simples que à travail égal, salaire égal. Tout cela, le Front Populaire ne le fournit pas à ces femmes qui pourtant l'attendaient.
Pourtant, il y a un premier passage, une première phase dans laquelle on peut dire que elles sont relativement satisfaites parce que très vite, la décision a été prise à la fois de faire voter par la Chambre des députés une loi instaurant le droit de vote des femmes et qui obtient l'unanimité. Après, le blocage va venir du Sénat. Tout le monde sait que certains députés radicaux ont voté cette loi parce qu'ils faisaient partie de la combinaison du Front Populaire, mais qu'ils étaient quand même tout à fait
assurés
que derrière, du côté du Sénat, les choses traîneraient en longueur suffisamment. Le deuxième élément, c'est que dans les augmentations de salaire, on voit bien que c'est le pouvoir d'achat des femmes qui va en bénéficier dans un premier temps, même si, par le biais des conventions collectives, il y a des déclassements qui vont se... et des requalifications qui vont être prises. Il y a également Blum décide, notamment en accord avec le sénateur Rucard, d'activer la commission qui s'intéresse à la situation juridique des femmes. Et donc à ce moment-là, il est bien question de donner de nouveaux droits aux femmes. Sauf que ça va s'enliser dans le temps et les priorités vont s'inverser, notamment les priorités sont celles de l'économique, des finances et autres. Et du même coup, on va repousser. Donc je pense qu'il y a à la fois un malentendu, il y a des arrière-pensées, ça ne fait pas de doute, mais il y a quand même un démarrage qui légitime l'idée qu'il y a de l'espoir et que cette espérance n'aurait pas dû être déçue.
Alors, c'est vrai qu'il y a un démarrage et puis il y a aussi tout ce travail que vous faites et il y aura encore beaucoup à faire sur ces problématiques, aussi des représentations. Donc, dans cette société qui reste quand même éminemment traditionnaliste et
très conservatrice,
comment les femmes sont représentées alors dans les magazines féminins, comment les femmes sont les rôles de femmes dans le cinéma, par exemple, et puis même dans la photographie. Après tout, on voit quelques photos de ces femmes grévistes, mais voilà, ce sont des héroïnes, ce sont des exceptions d'une certaine manière.
Pas tout à fait, je ne serais pas tout à fait de votre avis, parce que je pense que le fait que, d'une part, la photographie et la photogravure permettent de multiplier les clichés au sein desquels on va voir des femmes manifester, on va voir des jeunes femmes plus libres de leur corps, on va voir des femmes participer au congé, on va les voir en famille. C'est-à-dire cette visibilité des femmes dans leur activité modifie quelque peu la représentation que la société elle-même se fait des femmes. Même si elle corrobore en même temps l'idée que sa destinée naturelle, entre guillemets, et effectivement d'être la mère au foyer. Mais il y a quelques reportages sur le travail aussi.
Oui, mais ou des auxiliaires. Enfin, je parlais par exemple de la question des grèves. Au moment où les grèves se politisent davantage et sont moins des rassemblements que des grèves politiques, etc. On voit les femmes plus ou moins disparaître des défilés. Enfin, elles en sont sûrement plus ou moins écartées parce que la grève est une affaire d'hommes, est une affaire virile. Donc elles vont être soutien de grève. On va les voir plutôt apporter à manger.
Pas toujours. Il y a une très belle image de C'est vu ou regard qui montre cette femme qui embrasse son enfant dans les bras du père. Le père est à l'extérieur avec l'enfant et la mère est à l'intérieur et on voit ces visages de femmes qui sont les grèves.
Une occupation d'usine.
Et il y a une petite affiche qui dit usine en grève. Donc cette image-là, le choix de présenter cette image-là n'est pas innocent non plus. Donc je pense qu'il y avait certaines avancées.
Des velléités.
Les femmes ne sont pas toujours là où on imaginait non plus.
Voilà, merci Louis-Pascal Jacquemont d'être venu présenter votre livre L'Espoir brisé, donc 1936, Les femmes et le Front populaire, qui vient de paraître chez Belin. On y découvrira les textes crapuleux de quelqu'un qui traitait les femmes de crapules, à savoir Rebatté, qui les évoquait en disant qu'elles avaient la haine crapuleuse et crasseuse des garces en cheveux, ou encore qu'il les traitait de petites femelles. Mais
Et en même temps, il y aurait tout un travail à faire d'ailleurs sur les femmes de droite et d'extrême droite.
Oui, qui,
parce que l'Action française drainait beaucoup de militantes. Énormément, voire plus que la gauche.
De voix féminines. Et puis j'évoque beaucoup la CFTC aussi, qui a amené, enfin la droite catholique, a amené aussi un statut particulier des femmes. En tout cas, merci.
Merci beaucoup Louis-Pascal Jacquemont. On continuera cette semaine demain avec vous, Séverine Yatard, avec un documentaire que vous avez concocté avec Séverine Cassa. Un documentaire d'archives commenté par des historiens.
Disons que la problématique consiste à s'interroger sur comment on commémore ce fameux Front populaire depuis 1946 et notamment comment les socialistes commémorent ce Front populaire. Alors, de 10 ans en 10 ans, parce que les anniversaires se déroulent souvent par décennies, mais pas seulement. Parce qu'on peut imaginer qu'évidemment, certains événements comme la mort de Léon Blum, comme la guerre d'Algérie, comme mai 68 ou 80,
réactive.
Ou mai 80, réactifs. Et comment, pour le Parti Socialiste, cette mémoire-là. Et puis, comment aussi les historiens, c'est-à-dire comment le Parti Socialiste fait usage des travaux des historiens ou non, comment des historiens proches du Parti Socialiste participent à ces commémorations. Voilà, ça sera le thème de notre documentaire de demain.
Un petit extrait de ce documentaire.
La parole est au professeur Victor Bach, président de la Ligue des droits de l'homme, au nom du Rassemblement populaire.
Monsieur le Président du Conseil, mes chers camarades, citoyennes, citoyens, 14 juillet 1935, la levée en marche du pays républicain. Dressé d'un irrésistible élan pour défendre les conquêtes de la démocratie contre la tourbe des factieux et pour abolir les bastilles qu'avaient laissées debout les révolutions de 89, de 93, de 1830, de 48, de 71.
Comme tout bon mouvement de gauche, le Front populaire est très historiciste, ce qui peut paraître paradoxal à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la gauche.
Pascal Horry.
Et les références alors à une histoire proche, Jean Jaurès assassiné en 1914, c'est tout proche, la référence à la Commune de Paris, la référence au combat républicain du 19e siècle, la référence à la Révolution française est extrêmement forte, et Jean Bruat, grand historien par ailleurs membre très actif du Parti communiste, monte à la tribune et chante la continuité entre les combats passés, Jeanne d'Arc redevient une héroïne populaire au sein du Parti communiste, et ça laisse ébahi une sorte d'extrême-gauche, on imagine que les anarchistes, même ceux qu'on va appeler les trotskistes, descendent du train à ce moment-là, mais au fond, le Parti communiste se retrouve tout à fait dans cette réintégration patrimoniale.
Alors, d'abord, une chose importante à rappeler, c'est que le Front populaire s'inscrit lui-même dans l'histoire.
Frédéric Sépède.
Effectivement, il est un événement d'histoire, puisque c'est la première fois qu'une gauche rassemblée, divisée depuis le congrès de Tours, arrive au pouvoir, et surtout, c'est la première fois qu'un socialiste, parce que c'est pas la première fois que la gauche exerce le pouvoir, le Parti radical l'avait exercé bien avant, c'est la première fois qu'un socialiste devenait président du Conseil.
Voilà donc un extrait du documentaire qu'on pourra entendre, on l'attend jusqu'à demain,
l'attend
on l'entendra demain, en l'occurrence Séverine Yatard, documentaire que vous avez réalisé avec Séverine Cassard. Mercredi, vous vous êtes promenée dans une exposition.
Oui, alors l'exposition, il y a deux expositions de photos, en fait, sur le Front populaire en ce moment à Paris, je crois. Donc cette exposition qui est au Musée d'Histoire Vivante de Montreuil, Nouveaux regards, nouvelles images sur le Front populaire, alors donc qui est une grande exposition, alors justement, où voilà, on voit un petit peu toutes les problématiques du Front populaire traitées à travers la photographie, et pas seulement les grands photographes comme Willy Ronis, par exemple, mais aussi des inconnus, enfin des inconnus, plus ou moins, on va dire des photographes amateurs. Je pense à Jamais, notamment Pierre, oui. Jamais, et puis Marcel Cerf, voilà, qui ont fait des très très belles photos. Oui, enfin sur la jeunesse, sur les vacances, sur le temps libre justement. Et puis, bah peut-être il y a cette exposition à l'Hôtel de Ville que je n'ai pas vue sur aussi le Front populaire. Vous l'avez vu
de Françoise de Noyelle, ouais. Et qui est effectivement sur les images du Front populaire et qui utilise aussi une galerie. Notamment de portraitistes de l'époque, de photographes, et notamment de photographes immigrés, puisque c'était un moyen d'avoir un métier assez vite.
Mmh. C'est donc exposition à l'Hôtel de Ville de Paris, et puis vous, au Musée d'Histoire Vivante de Montreuil. Et jeudi, on fera le point sur jeunes recherches, pourrait-on
voilà,
dire.
Sur quelle problématique travaille-t-on aujourd'hui, quand on travaille sur le Front populaire?
Voilà, c'est donc le programme de la semaine pour tous nos auditeurs. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marcet. Jean Guinamège était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Je rappelle que nous avons parlé à la fois du colloque qui s'est tenu il y a un mois à Dijon et qui s'appelait donc le Parti communiste français dans une perspective transnationale, un parti global, et du livre de Louis-Pascal Jacquemont, L'espoir brisé, 1936, Les femmes et le Front populaire chez Belin.